Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le monde qui bouge.
Le Caire dans l'inconnu financière, en pleine négociation avec le FMI, alors que la crise ne cesse de s'amplifier en Égypte, le gouverneur de la Banque centrale égyptienne a démissionné hier. Bonjour Ben Aouda.
Bonjour.
Pourquoi cette démission ?
En fin de semaine dernière encore, un dirigeant de la Banque centrale d'Égypte balayait les bruits d'un départ en parlant de rumeurs fabriquées à dessein par certains intérêts, sans préciser lesquels, affectant à la fois l'institution et les établissements bancaires. Il se trouve que Tarek Amer a finalement décidé de partir sans que son remplaçant soit désigné dans l'immédiat. Le gouverneur en poste depuis 2015, une personnalité reconnue parmi ses homologues des économies émergentes, était visé pour sa gestion des très lourds défis financiers de son pays, systématiquement relié dans la communication des autorités égyptiennes à la guerre russo-ukrainienne. Le principal titre de la presse gouvernementale rapporte ce matin les divisions au sein de la Banque centrale, avec d'un côté le gouverneur que certains, je cite, disent favorable à une dévaluation de la monnaie voulue par le Fonds monétaire international afin d'être éligible à un nouveau prêt, tandis que le vice-gouverneur, lui, rejetterait les conditions strictes du FMI. Comme les experts de l'institution internationale, différents économistes de marché aux États-Unis et en Europe, ceux de Goldman Sachs ou encore de Deutsche Bank, soutiennent que la livre égyptienne reste trop élevée, même après la dévaluation en mars de 16%. Sans attendre qu'un remplaçant soit désigné, le nom de la ministre de la Planification est avancé. La Banque centrale devrait, quoi qu'il en soit, de nouveau augmenter ses taux d'intérêt, probablement aujourd'hui, pour la troisième fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit d'abord de contenir une inflation qui, selon les statistiques officielles, tend vers les 15%. Celle sur les denrées alimentaires atteint 66%, sachant que l'Égypte est le premier importateur de blé au monde, l'essentiel provenant de Russie et d'Ukraine. Et c'est bien la capacité de financer ses achats à l'étranger et à rembourser en même temps la dette extérieure qui est en jeu. Les réserves de change ont reculé à 33 milliards de dollars seulement.
Comment est-ce que la situation peut désormais évoluer ?
Alors, il y a une fois encore la conviction que, quoi qu'il advienne, des solutions de financement extérieur seront trouvées pour la plus peuplée des nations arabes. L'agence de notation financière Moody's avance sinon un risque de graves troubles sociaux. Alors, l'Arabie Saoudite a effectué un dépôt à la Banque Centrale Égyptienne il y a 3 mois, aux côtés des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Les engagements portent sur 22 milliards en tout, mais cela ne devrait toujours pas suffire. C'est l'appui attendu, très attendu, du Fonds monétaire international qui demeure le plus déterminant auprès des investisseurs institutionnels extérieurs. Les négociations avec le FMI ne cessent de s'étirer. C'est interprété comme une forme de défiance. Bien avant la guerre russo-ukrainienne, les experts du fonds, mais aussi ceux de la Banque mondiale, ont rédigé des recommandations, de manière plus ou moins diplomatique selon les documents, afin que l'État égyptien réforme de fond en comble son secteur public inefficace et desserre l'emprise militaire sur l'économie. Dans son rapport de surveillance de juillet 2021, par exemple, le FMI écrit que nombre d'entreprises publiques, dont celles contrôlées par la défense, enregistrent de faibles performances et bénéficient pour certaines de conditions de concurrence indues aux dépens de l'initiative du secteur privé. Fin avril, le président Abdel Fattah Sissi, qui a été le chef d'état-major des armées, a évoqué un programme de privatisation censé rapporter 10 milliards de dollars. Il a affirmé que des sociétés détenues par les forces armées seront mises en vente avant la fin de l'année, mais depuis, il n'y a pas eu de précision. Dans quelle mesure cela bouleverserait l'ensemble des équilibres de pouvoir, y compris au sommet, c'est là un paramètre tout à fait central.
Merci beaucoup Ben Aouda Abdedaïm, il est 7h30. Un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent. On commence par cette décision de la famille Bouygues. À quelques jours de la décision concernant le mariage éventuel entre TF1 et M6, la famille Bouygues monte au capital du groupe.
Elle dépasse désormais le seuil des 25% du capital et des 29% de droits de vote, mais précise ne pas vouloir franchir les 30%, ce qui l'obligerait à lancer une OPA sur le groupe. Le géant français du BTP, des télécoms et des médias que Martin Bouygues, le fils du fondateur, a fait grandir. Delphine Liu.
Pour son ami Lynn Renault, Martin Bouygues est un très bon homme d'affaires car il a su faire fructifier les entreprises de son père. En 30 ans, le dernier fils de Francis Bouygues, qui a commencé dans le groupe comme conducteur de travaux sur le chantier des Halles, avec un bac pour seul diplôme, a en effet multiplié par 5 le chiffre d'affaires du groupe, par 12 les bénéfices et par plus de 2 le nombre de collaborateurs. Après le BTP, les médias, les deux piliers édifiés par son père, Martin Bouygues lance Bouygues Télécom en 1994, le troisième opérateur français. En 2015, il refuse de vendre son bébé, alors en grande difficulté, à Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, contre un chèque de 10 milliards d'euros. L'année dernière, Martin Bouygues laisse la direction générale du groupe Bouygues à l'un de ses lieutenants, Olivier Roussat. Son fils Édouard, l'actuel DG délégué du groupe, vient de prendre la présidence des télécoms. Après avoir racheté la filiale d'Engie et Equans, Bouygues rêve de fusionner TF1 et M6. Mais l'opération, qui serait venue couronner la carrière du plus ancien dirigeant du CAC 40, a du plomb dans l'aile.
Et Altice, dont on parlait dans ce reportage, est bien sûr propriétaire de BFM Business. Le laboratoire Sanofi accumule les déboires, Claire.
Oui, après l'échec de son vaccin anti-Covid, le laboratoire a renoncé à développer son traitement contre le cancer du sein. Les essais n'étaient pas concluants. Thomas Schnell.
Terminé les développements autour de l'amcenestran, la molécule expérimentale de Sanofi n'a pas montré les effets escomptés comme traitement contre le cancer du sein avancé ou non opérable. L'amcenestran était arrivé à un point de développement où les analystes financiers avaient commencé à espérer que la molécule soutiendrait la croissance des ventes de Sanofi à partir de 2025, dégageant 350 millions de revenus à partir de 2027. Avec ce nouvel échec, la Big Pharma française continue d'alimenter une préoccupation majeure des analystes. Le groupe est-il trop dépendant d'un de ses médicaments phares, le Dupixent, utilisé contre l'asthme et certaines maladies de peau, qui représente 1/5 de ses revenus? D'autant que d'autres inquiétudes planent sur le front judiciaire cette fois. Les procès contre le Zantac, ex-médicament star contre les brûlures d'estomac, soupçonné d'avoir provoqué des cancers, ils vont débuter à partir de la semaine prochaine aux États-Unis et maintenir le groupe sous pression.
Encore un signe de faiblesse dans le secteur des crypto-monnaies, les mineurs de Bitcoin voient leurs pertes s'accumuler.
Ah oui, ils se retrouvent contraints de céder leurs actifs face à l'effondrement des cours des cryptos. Les principaux groupes spécialisés dans le minage ont enregistré des pertes abyssales au deuxième trimestre. Simon Tenenbaum.
Les trois principales entreprises de minage de Bitcoin cotées aux États-Unis ont enregistré au cumulé plus $1 milliard de pertes au dernier trimestre. Avec un cours du Bitcoin toujours au plancher, les mineurs, qui font aussi face à la hausse des prix de l'énergie, se retrouvent à court de liquidités et sous pression de leurs créanciers. Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de céder leurs actifs, d'abord en piochant dans leurs réserves. Les principaux mineurs ont vendu près de 15 000 Bitcoins en juin, alors qu'ils n'en ont produit que 3 900. Plus de 6000 bitcoins ont encore été cédés en juillet. Et comme cela ne suffit pas, ce sont maintenant les coûteux ordinateurs, les machines de minage qui sont revendues. Stronghold Digital Mining a par exemple réduit sa dette de 67 millions de dollars en cédant plus de 26 000 machines à ses créanciers. Des créanciers spécialisés dans les crypto-monnaies qui se retrouvent eux aussi en danger. Jusqu'à 4 milliards de dollars de prêts adossés sur des machines de minage sont aujourd'hui à risque à cause de la chute du marché.
Et comme tous les jours, on vous parlera de crypto-monnaie juste à la fin de ce journal. La Chine partie pour dépasser les États-Unis dans le nucléaire.
Ah oui, le pays connaît une accélération exponentielle de sa production. 20 réacteurs sont en cours de construction. La Chine vient de remettre en service un réacteur EPR de sa centrale de Taishan dans le sud du pays. Ce réacteur était à l'arrêt depuis un an à cause d'un problème technique. Virginie Cook.
L'été dernier, les autorités chinoises découvrent un problème d'étanchéité des barres de combustible de l'EPR de Taishan. Le réacteur est alors mis à l'arrêt. Après un an d'inspection et de maintenance, il est de nouveau opérationnel. Le réacteur vient d'être reconnecté en début de semaine au réseau électrique chinois. Ce réacteur est la première installation EPR à avoir été mise en service dans le monde en 2018. Une technologie fournie par EDF, qui est d'ailleurs actionnaire à 30% de la centrale de Taishan, qui était censée lui servir de vitrine. Le groupe français va devoir éviter ces mêmes problèmes d'étanchéité dans son EPR de Flamanville, où EDF est en train de remplacer 64 des 241 assemblages de combustible. Un énième problème à régler pour l'EPR de Flamanville qui cumule plus de 10 ans de retard. La mise en service de l'EPR finlandais, prévue en juillet, elle, a été repoussée en décembre prochain, après 12 ans de retard sur le calendrier initial.
Et face à la sécheresse et au manque d'eau dans le pays, la Chine est contrainte de restreindre l'électricité dans ses entreprises, notamment dans la province du Sichuan, où 80% de l'électricité vient de l'hydraulique. Pour les industries les plus gourmandes, elles ont dû fermer pendant 5 jours. Dans l'actualité internationale, réunion en Ukraine aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Les trois hommes doivent se retrouver à Lviv, dans l'ouest du pays, au menu des discussions. Le récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, mais aussi le besoin de trouver une solution politique à ce conflit qui devrait être abordé.
En France, le gouvernement veut légaliser les dark stores et les dark kitchens.
Vous savez, ce sont ces entrepôts qui permettent de livrer des courses et des repas en quelques minutes. Ils ont fleuri un peu partout pendant la pandémie, mais les maires ne voient pas du tout d'un bon œil ces concepts hybrides qui menacent les commerces de leur ville. Laura Cambeau.
Mettre fin au flou juridique qui entoure les dark stores et les dark kitchens depuis des années, c'est l'objectif du projet de décret gouvernemental. Il propose que ces entrepôts soient considérés comme des commerces, dès lors qu'un seul retrait est effectué par jour. Selon Lionel Delbos, conseiller en charge de l'économie des territoires pour France Urbaine, ces entreprises pourront facilement contourner la législation.
Un dark store peut être considéré comme un commerce s'il livre 799 consommateurs dans la journée, mais si un d'entre eux vient chercher ses courses dans le dark store, ce n'est plus un entrepôt, c'est un commerce.
Opposition frontale des autorités locales qui veulent réguler leur implantation. À Paris, on compte une centaine de dark stores et de dark kitchens et selon la mairie, ils représentent une concurrence déloyale contre les petits commerces. Olivia Polski est adjointe en charge des commerces dans la capitale.
Aujourd'hui, en fait, notre plan local d'urbanisme, il protège le commerce de proximité et il ne permet pas à des entrepôts de prendre la place de commerce.
Une cinquantaine de procès-verbaux dressés par la mairie de Paris sont en attente d'une instruction par le tribunal. De leur côté, Cajou, Gorillaz, Flink et leurs concurrents se défendent et affirment qu'ils font aussi travailler des artisans locaux.
7h39, on parle des crypto-monnaies.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
Avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext, les grandes cryptos, Antoine, qui plient ces dernières heures, plafond de verre et recul marqué, on peut le dire, des grandes monnaies du secteur.
Oui, retour sur les 23 000 pour le Bitcoin, 1 800 pour l'Ether. Il y a pas mal d'investisseurs qui étaient entrés sur le marché dans l'espoir de voir The Merge, la fameuse modification de la blockchain de l'Ether, se réaliser. Il y en a pas mal qui en sont sortis, du coup, sur la séance d'hier. À noter un mouvement de correction un petit peu marqué aussi sur le Ripple.
Et vous vous êtes penché ce matin, Antoine, sur le palmarès des grands investisseurs dans le domaine des cryptos. Chiffre sur un an, and the winner is...
Eh bien, Google, qui arrive en premier du classement établi par le cabinet Block Data Tech, des chiffres qui prennent en compte les plus grands investissements dans le domaine effectués par les entreprises cotées depuis septembre dernier. Effectivement, aussi étonnant que ça puisse paraître, les premiers à investir en montant ne sont pas forcément les plateformes crypto en elles-mêmes, ni les spécialistes du paiement numérique. Il faut dire que rares sont les acteurs cotés. Non, le premier investisseur en la matière, c'est Google. 1,5 milliard de dollars investis dans des tours de financement autour de 4 grandes entreprises. Numéro 2, un grand financier, le fonds géant américain BlackRock. 1,1 milliard autour de la super plateforme FTX, notamment, dont il est un des grands partenaires. Derrière, quasiment ex aequo, surprise, la banque Morgan Stanley qui investit 1,1 milliard également. Ensuite, on a Samsung, 980 millions à travers 13 opérations, 13 entreprises différentes, le coréen qui se constitue une vraie palette d'investissement. À noter en 6e place Goldman Sachs. Alors, on qualifie souvent la banque d'une des plus actives sur le domaine des cryptos. Elle en fait grand cas. Mais au final, ses investissements arrivent un peu derrière au total, un peu moins de 700 millions de dollars à travers 5 opérations. Et puis derrière, alors Bank of New York Mellon, qui est 7e. PayPal, premier spécialiste du paiement numérique, n'arrive que 8e à 650 millions et 9e seulement à 470 millions de dollars. Tiens, mais Microsoft, actif sur le sujet, mais visiblement, ce n'est pas encore une priorité absolue. Et chose étonnante, Microsoft est davantage présent dans le domaine des blockchains de gestion des NFT à travers les financements de deux spécialistes du genre, Palm et Consensus.
Merci beaucoup Antoine, on se retrouve juste après le journal de 8h. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peut-être été confronté à cette question. Une entreprise est-elle obligée d'accepter la demande d'un salarié à temps partiel qui souhaite travailler davantage? Écoutez les explications de Thomas Schnell.
Good morning business, BFM Business avec vous.
On a une question ce matin, donne nos auditeurs. Un employeur qui a un salarié actuellement à temps partiel et qui souhaite passer en temps plein, ce à quoi notre auditeur est opposé. Il considère le salarié qu'il est forcé de faire droit à sa demande puisque son contrat de travail ne mentionne pas qu'il est à temps partiel. Est-ce que notre employeur peut refuser? Alors, en principe, l'employeur n'est pas forcé d'accepter la demande d'un salarié de passer d'un temps partiel à un temps plein s'il en fait la demande. Il y a toutefois des obligations. Le salarié bénéficie d'une priorité de l'emploi. Donc, si un emploi disponible à temps plein dans sa catégorie professionnelle, eh bien, il faut lui proposer. Si on n'informe pas le salarié, ce sera considéré comme un préjudice à réparer. Dans ce cas, donc, le nombre d'heures n'est pas spécifié dans le contrat, ce qui pourrait lui donner raison. Le contrat à temps partiel doit bien évidemment mentionner la durée hebdomadaire. Son absence fait donc présumer que l'emploi est à temps complet. Mais cette présomption tomberait si jamais l'employeur arrive à prouver que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Autrement, le contrat à temps partiel pourrait être requalifié et l'employeur condamné à régulariser les paiements du salaire.
Thomas Schnell, BFM Business, avec vous. Avec la sécheresse de cet été, on n'a sans doute jamais autant parlé d'environnement. Recycler, réutiliser les objets pour leur donner une seconde vie et ainsi réduire notre empreinte carbone. Rebecca Blanc-Lelouch, ce matin, nous emmène à la découverte d'un débarras qui offre une seconde vie aux objets en les revendant via un réseau de partenaires brocanteurs. Regardez.
Télé, radio et digital. Good morning business.
Un été exceptionnel pour les vendeurs de glace entre la série de canicules cet été en France et le retour des touristes après 2 ans de crise sanitaire. Les ventes de sorbets et de crèmes glacées ont atteint des niveaux records pendant la période estivale. On va en parler avec Bruno Haïm, président de la Confédération Nationale des Glaciers de France et propriétaire des sorbets de Saint-Mandé.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes artisan glacier. Je le précise, ça a une importance, on verra pourquoi dans un instant. D'abord, c'est un produit évidemment sensible à la météo, donc les ventes ont progressé puisqu'il faisait chaud cette année, avec un détail intéressant. En fait, les ventes ont surtout progressé là où, d'habitude, il ne fait pas toujours beau.
Alors oui, on s'est aperçu qu'il y a une nette augmentation de la vente de glace et de sorbet sur la région de la Bretagne, mais également la région de Savoie. Tout ce qui est plutôt vacances, promenades et santé.
Donc c'est un très bon bilan pour cette période estivale qui n'est pas encore complètement terminée. Quel est le pourcentage du chiffre d'affaires que les glaciers réalisent pendant l'été ?
Alors les glaciers qui vendent des cornets, il y a un chiffre d'affaires, un pourcentage d'à peu près 30%, pardon.
30% seulement.
30%, oui.
L'autre pic de l'année.
L'autre pic de l'année, bien évidemment, c'est les fêtes de Noël, avec les bûches glacées, les entremets glacés, les galettes des rois glacées, tout ce que l'on peut faire toute l'année.
On consomme en moyenne 6,5 litres de glace par an et par Français. Comment est-ce qu'on se situe au niveau international? Est-ce que les Français sont des gros mangeurs de glace ou pas?
Alors non, on n'est pas vraiment des gros mangeurs de glace. Nous, on mange de la glace plutôt comme une récompense, comme un plaisir, alors que d'autres pays, beaucoup de pays en Europe, mangent la glace un petit peu comme un produit laitier. Ils mangent de la glace aussi bien comme du fromage ou comme un yaourt. Les Américains se situent à 22 litres par an. Un petit peu comme la Finlande et la Suède, ils sont à 16 à 18 litres par an, ouais. Et par personne.
Mangerbouger.fr. Hein. Dans quelle mesure est-ce que les prix ont augmenté cet été? On sait que pour fabriquer une glace artisanale, on va y venir, il faut des produits laitiers, il faut évidemment des fruits dont les prix ont augmenté.
Tous ces produits ont augmenté. Le lait a pris presque 30%, ce qui est énorme. 30%, mais également on a tous les fruits, l'électricité, le gaz a presque doublé. Donc on travaille tous, on a tous des chaudières qui fonctionnent au gaz. Les fruits cette année, il y en a eu très très peu et je pense qu'il y en aura plus beaucoup sur le mois de septembre. tous ces produits, toute cette matière première a énormément augmenté de 15 à 30, 40% même sur certains produits.
Vous-même, vous avez augmenté vos tarifs.
Ah, j'ai dû malheureusement augmenter mes tarifs parce que la framboise a pris 80% d'augmentation. Enfin, tous les produits dont se sert le glacier ont augmenté. En l'espace de 4 mois.
Quel pourcentage est-ce que vous avez dû appliquer en moyenne?
Alors nous, on a pour l'instant, on a augmenté de 7% nos glaces, mais moi personnellement, je vends des glaces uniquement à la restauration. Donc c'est un peu différent.
On dit que l'équation est différente pour les glaces industrielles, que les marges sont considérables pour les glaces industrielles.
Alors là, je ne vais peut-être pas pouvoir beaucoup vous renseigner.
Vous connaissez le secteur.
Leur demander. Sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Non, je ne peux pas vous répondre là-dessus.
Ouais. Ces dernières années, beaucoup d'enseignes industrielles ont ouvert leurs portes. Il suffit de se promener dans les rues de Paris. On voit des vendeurs de glaces un peu différentes, notamment au yaourt, avec des garnitures. Quelle est aujourd'hui la proportion de glaciers artisanaux? On a l'impression qu'il y en a de moins en moins.
Très souvent, ces gens qui font de la glace, très souvent, hein, pas tout le temps, mais très souvent, les gens qui font de la glace au yaourt, souvent, ce sont des produits qu'ils achètent et qu'ils transforment en glace au yaourt. C'est des produits des prémix, ce qu'on appelle.
Voilà, ce sont des poches.
Ce sont des poches, voilà.
Et on congèle, un peu comme des glaces italiennes.
Congèle ou pas congelé, voilà, c'est un peu dans la fabrication de la glace à l'italienne. Et après, ils rajoutent des coulis, des sauces. Voilà, mais vous avez quand même des artisans glaciers qui fabriquent de la glace avec du yaourt, bien évidemment.
C'est quoi la différence? C'est la même qu'entre un restaurant gastronomique et un fast-food?
C'est un petit peu cette différence, effectivement.
Ouais. Quelle est la formation pour être artisan glacier?
Alors, pour être artisan glacier, alors bien souvent, on part tous d'un CAP de pâtissier, mais après, bien évidemment, on évolue avec un CAP glacier, un BTM, et après, le titre ultime, meilleur ouvrier de France glacier.
Est-ce que le secteur a du mal à recruter, comme l'hôtellerie-restauration?
Bien évidemment, on est tous à la recherche de gens qui veulent venir travailler dans nos entreprises. D'autant plus que nous avons un métier vraiment sympa quand même. On travaille avec des beaux produits, mais on est un petit peu comme dans toutes les professions alimentaires, on cherche du personnel.
Comment vous expliquez cette pénurie?
On l'explique pas.
Vous avez dû augmenter les salaires?
On a augmenté les salaires. On a eu une augmentation au début juillet. Comme beaucoup de gens. Et puis, ça donne pas grand chose de plus. Donc, on n'arrive pas à trouver du personnel. On verra ce qu'on va pouvoir avoir comme personnel au mois de septembre. On va recruter. Tous les artisans glaciers vont recruter pour ceux qui travaillent toute l'année. Maintenant, est-ce que l'on va trouver? C'est une chose.
Merci beaucoup, Bruno Haïm, d'avoir partagé votre expertise. Les sorbets de Saint-Mandé. Vous êtes par ailleurs président de la Confédération nationale des glaciers de France. On va vous parler du secteur du luxe à présent, puisque vous le savez, tout au long de la semaine, on vous raconte l'histoire d'un groupe de luxe. Ce matin, Haute-Kersulex s'intéresse au numéro 1 mondial du secteur. Évidemment, c'est LVMH. Regardez.
Quatre initiales pour 75 maisons de luxe. LVMH est dirigée d'une main de maître, une main de fer par Bernard Arnault. Un empire bâti au fil des années avec un peu de chance, un peu de passe-passe, mais surtout beaucoup d'ambition. Élève moyen à Polytechnique, Bernard Arnault rejoint à la sortie l'entreprise familiale Ferinel. Ils font du BTP et de l'immobilier près de Roubaix. En 81, la gauche au pouvoir, Bernard Arnault s'en méfie au point de quitter la France, direction les États-Unis pour développer une filiale de sa société. Mais les affaires ne prennent pas très bien. Arnault, ça ne fait pas très américain, il revient au pays. Et c'est finalement grâce aux socialistes que Bernard Arnault va vraiment décoller. En tant que jeune patron ambitieux, il est choisi par les pouvoirs publics pour reprendre Boussac, entreprise du nord de la France, c'est sa région. Boussac est une société au bord de la faillite qui embarrasse bien le gouvernement. Il faut dire que c'est un ensemble assez hétérogène, composé de textiles, de quelques magasins, dont le Bon Marché, et d'une pépite du luxe, Christian Dior. Le luxe, Bernard Arnault va découvrir ce que c'est, il va comprendre combien ça peut rapporter. Chez Boussac, il fait le tri. Il vend les couches peau douce, il sort Conforama. Tant pis pour les promesses de sauvegarde d'emploi, ses ambitions sont ailleurs. Lui garde un œil sur le monde des affaires et notamment un rapprochement qui a lieu en 1987 entre deux fleurons français, Louis Vuitton, la célèbre marque de maroquinerie, et Moët&Cy dans les champagnes spiritueux. LVMH. Mais les mariés ne s'entendent pas très bien, la crise boursière passe par là, le groupe devient opéable et chacun des fondateurs cherche une alliance. D'un côté, Henri Racamier pour Louis Vuitton et de l'autre, Alain Chevalier qui a mis sur pied Moët&Cy. Les deux hommes connaissent Bernard Arnault qui va en profiter pour jouer double jeu. Il rachète à tour de bras des actions LVMH, même très chères, des obligations convertibles aussi, ce qu'il veut, c'est le pouvoir. En 1988, il dévoile sa position de premier actionnaire et débarque tous ceux qui ne lui plaisent pas. Le voilà président de LVMH. Bernard Arnault est un collectionneur, sa soif n'est jamais assouvie. Dans les années 90, il est pris d'une boulimie de rachats d'entreprises, mode, distribution, internet aussi, les dot-com le font vibrer. Et puis toujours le luxe, avec quelques désillusions. En 99, le prédateur vise Gucci, même stratagème que LVMH. Bernard Arnault rachète des blocs d'actions, il s'assure du soutien de certains actionnaires. Mais un chevalier blanc va lui voler la promise. Ce chevalier, c'est François Pinault, président de Pinault Printemps Redoute. Le rêve Gucci s'efface, comme celui d'Hermès 15 ans plus tard. Lors d'un raid boursier de LVMH, le cellier se bat comme un beau diable pour garder son indépendance. En 2014, Bernard Arnault, défait, signe un accord. Il n'aura jamais Hermès. Mais depuis, il continue sans cesse la conquête de nouvelles marques. Tiffany dans la joaillerie ou encore l'hôtellerie de luxe où il veut maintenant laisser une trace. Un jour, un des 5 enfants Arnault prendra sa relève. Ils travaillent tous chez LVMH. Habile en montage financier, Bernard Arnault leur a déjà transmis la majorité de ses parts. Mais la succession opérationnelle, la place du chef, est elle, loin d'être réglée.
Aude Kersulec, la saga du luxe. À suivre dans un instant la météo, juste après. Ce sera le journal de Claire Sergent. Tout à l'heure à 8h15, on vous parlera des ventes de logements neufs. La commercialisation de logements a chuté de pratiquement 12% au deuxième trimestre. On verra pourquoi avec notre invité tout à l'heure à 8h15. Et on fait un nouveau point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Encore un mauvais signal, Claire, sur le marché immobilier. Après les difficultés liées au crédit, la crise du logement neuf continue de s'aggraver.
Oui, après le rattrapage de l'an dernier, le nombre de logements neufs mis en vente a chuté de près de 12% au deuxième trimestre. Et on compte 28 000 réservations de logements neufs en moins sur la période. Un chiffre en nette baisse par rapport à l'année dernière et surtout par rapport à l'avant-crise. Marie Cœur de Roy.
La reprise du logement neuf aura été de courte, très courte durée. Au deuxième trimestre, le nombre de réservations s'affiche en baisse de 13% par rapport à la même période de l'an dernier. 20% de recul même, si on compare aux chiffres de l'avant-Covid. Il faut dire qu'entre les conditions d'accès au crédit qui se durcissent et les prix du neuf qui s'envolent encore de près de 5% sur un an, les Français sont de moins en moins nombreux à se positionner sur les appartements, mais surtout sur les maisons, avec une baisse des réservations de plus de 23% sur un an et même plus de 40% pour les seules petites maisons. L'inflation pèse et les acheteurs doutent, à tel point d'ailleurs que les annulations repartent en nette hausse. Désormais, plus de 13% des réservations de logements neufs sont finalement annulées.
Et on analysera cette situation sur le marché immobilier tout à l'heure à 8h15 avec notre invité.
Thierry Breton conseille à tous les Européens de ne pas mettre le climatiseur trop fort et de baisser de 1 à 2 degrés le chauffage cet hiver. Invité de BFM Business hier soir, le commissaire européen au marché intérieur a expliqué que pour l'instant, la baisse de 15% de la consommation d'énergie dans l'Union européenne n'était qu'une recommandation, mais elle pourrait bien devenir obligatoire. Il a cité l'exemple du Japon qui, après la catastrophe de Fukushima, a dû brusquement stopper sa dépendance au nucléaire. Le pays y est parvenu avec ce genre de modération.
La transition écologique attire toujours les investisseurs. BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, va investir 700 millions de dollars dans les batteries.
Oui, le fonds américain est sur le point de racheter l'Australien Akaishia Energy, spécialisé dans le stockage d'électricité renouvelable, une entreprise très prisée dans le pays. Jean-Baptiste Huette.
Stocker de grandes quantités d'électricité renouvelable dans de gigantesques batteries, c'est la stratégie adoptée par l'Australie. Une technique qui permet de compenser l'intermittence des énergies renouvelables, solaire et éolien, car bien sûr, sans soleil ou sans vent, pas d'électricité. Ces fermes de batteries prennent donc le relais quand c'est nécessaire et assurent la stabilité du réseau électrique, limitant ainsi les coupures. C'est aussi une méthode, souligne EY, qui permet aux distributeurs d'effectuer des arbitrages entre les périodes de prix élevés et de prix bas. Les 700 millions de dollars mis sur la table par BlackRock vont permettre à Akaishia Energy de développer 1 gigawatt d'actifs de stockage par batterie, l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Il y a un peu plus d'un an, l'Australie avait déjà inauguré sa Victorian Big Battery, un monstre capable d'alimenter 500 000 foyers pendant une heure, une vraie porte de sortie pour un pays qui carbure encore l'énergie fossile. Selon l'Agence internationale de l'énergie, un développement rapide du stockage sur batterie est une nécessité pour accompagner le développement des énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est une vraie course mondiale qui s'est engagée. Europe, Asie, États-Unis, Australie, les projets se comptent déjà par dizaines.
Dans l'actualité internationale, les États-Unis et Taïwan entament des négociations commerciales officielles. Les deux pays affirment vouloir conclure des accords aux résultats économiques significatifs. Washington fait d'une pierre deux coups. Il affiche son soutien à l'égard de Taipei et poursuit son projet de contrer l'influence grandissante de la Chine en nouant des partenariats avec d'autres pays asiatiques.
Le fonds souverain le plus important du monde est plombé par un ralentissement économique. Ça se passe dans le nord de l'Europe.
Et la valorisation du fonds souverain de Norvège a plongé de 170 milliards d'euros au premier semestre. C'est sa plus forte baisse en valeur depuis sa création et c'est une chute d'une ampleur qu'il n'avait pas connue depuis la crise financière de 2008. Sofiane Aklouf.
Cette perte des six premiers mois de l'année dépasse l'ensemble des gains de l'année dernière, un rendement négatif de 14,4%. La hausse des taux d'intérêt, l'inflation et la peur d'une récession mondiale ont pesé sur ses investissements. Son portefeuille d'actions a fondu de 17%. Secteur le plus touché, la technologie, en repli de 28% sur la période. Les investissements massifs dans les GAFAM l'ont pénalisé. Alimenté par les revenus pétroliers, il a tenté un début de virage vers des projets d'énergie renouvelable. Ses actifs accusent une perte de 13%, à l'inverse de l'énergie carbonée qui prend 13%, dopé par la flambée des cours. Autre valeur refuge en période d'inflation, l'immobilier a rapporté 7% ce semestre, mais ne représente qu'une faible part de ses capitaux. Le fonds souverain de Norvège pèse désormais 1500 milliards d'euros, soit trois fois le PIB du pays. Il est au capital de plus de 9000 entreprises et contrôle 1,3% de la capitalisation boursière mondiale.
Et toujours à l'international, cette première pour le géant technologique chinois, le groupe Tencent, son chiffre d'affaires est en baisse.
Et moins 3% au deuxième trimestre. Son bénéfice, lui, a dégringolé de plus de 50% du jamais vu depuis son introduction en bourse en 2004. Et il faut savoir que Tencent subit des attaques de toutes parts. Simon Tenenbaum.
Tencent n'est d'abord pas épargné par le ralentissement de la croissance chinoise, comme d'ailleurs Alibaba, qui a aussi enregistré une baisse inédite de son chiffre d'affaires le trimestre dernier. Les revenus publicitaires de Tencent se sont par exemple effondrés de 18% sur un an. Dans les jeux vidéo ensuite, le groupe est affecté par la régulation du régime chinois, qui accuse le secteur de corrompre la jeunesse. Les mineurs en Chine n'ont plus le droit de jouer que 3 heures par semaine, et Tencent n'a obtenu aucune autorisation pour sortir de nouveaux jeux depuis un an. À l'international, le groupe est pénalisé, comme ses rivaux occidentaux, par le ralentissement du marché du jeu vidéo avec l'éloignement de la pandémie. En réaction à cette première crise de croissance, Tencent lance un plan d'économie. Près de 5% des effectifs ont été supprimés sur le trimestre et entend se débarrasser de ses activités non stratégiques. Le groupe vient par exemple de fermer sa plateforme de NFT lancée il y a tout juste un an.
Alors que le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus contraint, on vous en parle beaucoup, Casino se lance sur le marché de l'occasion.
L'enseigne a ouvert hier en Haute-Loire son premier magasin spécialisé baptisé Ocase, de la seconde main à des prix beaucoup plus abordables. Thomas Schnell.
Une grande surface dédiée uniquement à la seconde main, voilà le grand test lancé par Casino au Puy-en-Velay, avec une promesse, trouver des produits jusqu'à 70% moins chers que le neuf, et ce, même sur des grandes marques. Les enseignes Casino vont proposer des produits qui viendront notamment de déstockers, mais aussi des partenariats dans l'habillement avec le site de seconde main prêt à changer, ou bien dans la téléphonie avec l'entreprise Phone Recycle Solution pour des produits reconditionnés. Le groupe avait déjà fait une tentative sur le marché de l'occasion, c'était avant la pandémie, avec des corners Easy Cash situés dans ses magasins. Easy Cash s'était ensuite associé à Auchan et Cora, puisque Casino n'est pas la seule enseigne de grande distribution à vouloir profiter de la manne de l'occasion. Leclerc et Decathlon proposent également des articles de seconde main dans leurs propres magasins.
En France, la grande majorité des parents estiment qu'elle ne pourra pas tout acheter cette année pour la rentrée scolaire. Selon un baromètre Cofidis, 68% d'entre eux prévoient de se restreindre. Et pour les 22 restaurants, ils prévoient même de se restreindre beaucoup. Première dépense dans laquelle ils vont devoir tailler les vêtements pour 57% d'entre eux. Puis viennent les fournitures, les activités extrascolaires et même, dans une moindre mesure, les inscriptions à la cantine. Et puis enfin, en Grande-Bretagne, une nouvelle vague de grève face à l'inflation qui dépasse les 10% dans le pays. Un mouvement sans précédent depuis des décennies. Des milliers de Britanniques, des cheminots, des postiers, des dockers sont appelés à cesser le travail aujourd'hui. Deuxième journée de débrayage prévue également samedi dans le pays.
Merci beaucoup Claire. Il est bientôt 8h08, les marchés financiers. Antoine Larigauderi en direct du siège d'Euronext à La Défense. Sale temps sur les marchés hier. Est-ce qu'on va rebondir ce matin ?
Oui, sans doute. La consolidation, c'est vrai, était assez nette, assez marquée. On a quasiment perdu 1% sur le CAC 40. Maintenant, ça reste logique. On sortait de 5 séances de hausse consécutives sur des petits montants, mais certains ont voulu prendre des bénéfices. Il y avait des raisons à cela, et en particulier de fortes tensions sur le marché obligataire après les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui ont un petit peu assombri l'atmosphère. Les indicateurs du jour n'ont pas forcément éclairé le tableau. On a eu les minutes de la Fed hier qui réservaient pas de surprises outre mesure, les pressions inflationnistes tardent à s'estomper. Le scénario d'une forte hausse de 75 points de base des Fed Funds en septembre est toujours sur la table. Donc bon, rien de nouveau sous le soleil. On a un petit peu accusé le coup hier, mais globalement les marchés devraient se stabiliser, peut-être même reprendre quelques petits points à Paris aujourd'hui du côté des 6550 pour le CAC 40. Maintenant, encore une fois, il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe sur le marché obligataire où les dynamiques restent quand même assez volatiles. On a pu voir des très nets signes de tension hier. Et puis également sur le pétrole, on se posera la question de savoir si cette forte correction du pétrole est une bonne ou une mauvaise nouvelle sur les marchés. En tout cas, pour le moment, on a un petit redressement. On a quand même touché un plus bas de 6 mois hier, hein, 91,50 $ sur le baril de Brent de mer du Nord. On remonte largement au-delà des 93 ce matin, quasiment 94. Petit redressement à court terme, mais les pressions baissières quand même perdurent.
Merci beaucoup Antoine. On se retrouve juste après le journal de 8h30. Dans moins de 2 ans maintenant, ce sera le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous le savez, tout au long de la semaine, on vous propose une série de reportages sur les coulisses de cet événement. Ce matin, direction Saint-Denis, au nord de Paris, là où sera installé le village des athlètes olympiques. Reportage signé Léo Dumas.
40 grues, 1800 ouvriers mobilisés chaque jour. Le plus gros chantier en lien avec les Jeux Olympiques bat son plein ici à Saint-Denis, c'est celui du village des athlètes. Alors à 2 ans du coup d'envoi des Jeux, on est venu pour faire le point et voir si tout sera finalisé comme espéré.
C'est sur 52 hectares que s'étale le plus gros chantier de France. Établi sur les 3 communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis, jusqu'à 20 000 athlètes olympiques et paralympiques seront accueillis ici pour le plus gros événement sportif du monde. C'est la Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, qui supervise le projet du village des athlètes. Elle doit ici faire sortir de terre logements, espaces de restauration et salles d'entraînement avant 2024. Un vrai défi, nous explique le directeur général de la Solideo, Philippe Rosier.
C'est à la fois une énorme contrainte, mais c'est un formidable accélérateur et c'est un effet de mobilisation. Et donc on arrive à être à la fois très ambitieux, sobre, aussi bien sur l'environnement, mais aussi sur les budgets. Et en fait, tout ça concentre et la prise de décision, en fait, est très rapide. Et donc c'est ça aussi qui permet d'avancer. Et dans une opération normale, ce que je vous disais, ce qu'on va faire en 6 ans, dans la vie normale, c'est entre 12 et 18 ans.
Le défi du temps, mais pas seulement, l'inflation frappe particulièrement le secteur du bâtiment. Mais sans la prendre en compte, la Solideo assure tenir son budget en euros 2016, 3,8 milliards, dont 40% de subventions publiques. Et avec les questions RSE, le cahier des charges est énorme. Et surtout, 2 semaines après les Jeux Olympiques se tiendront les compétitions paralympiques. Dans les espaces publics comme dans les bâtiments du village, les questions d'accessibilité sont cruciales, rappelle Henri Spech, le directeur du projet.
Un exemple très simple, la question de la pente dans les espaces publics qui ont fait l'objet d'ajustements, de réglages dès l'automne 2018, et puis une déclinaison dans les logements avec, un souci du détail, et je pense notamment à l'accessibilité des salles de bain sur lequel il y a un travail extrêmement pointu qui est fait.
Après les Jeux, le village connaîtra une seconde vie, sa plus importante. Sa construction a d'ailleurs été pensée pour son héritage, nous explique Henri Spech.
la réflexion a d'abord porté sur un quartier durable qui, j'allais dire, va ouvrir ses portes à de nouveaux habitants à partir de 2025. Et puis le temps, j'allais dire, des jeux s'est adapté à la façon de ce quartier qui, j'allais dire, battra son plan en 2025.
Quelques transformations seront nécessaires. Les cuisines inutiles dans les logements pendant les compétitions remplaceront par exemple des salles de bain avant que 6000 habitants et autant de salariés prennent leur quartier dès l'été 2025.
Et demain, Léo Dumas nous parlera de la logistique autour de l'alimentation et de la restauration des 15 000 athlètes olympiques, avec évidemment des contraintes diététiques, mais aussi le souci de préserver, de favoriser les circuits courts. Rendez-vous donc demain à 7h10 pour la première diffusion de cette chronique. Dans un instant, on va vous parler du ralentissement de l'offre de logements neufs. Pratiquement 12% de baisse au deuxième trimestre. Ce n'est sans doute pas terminé. Les réservations dégringolent également. On va parler de tout ça juste après la pause avec Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut de Management des Services Immobiliers. À tout de suite.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
C'est un gros coup de frein pour le marché immobilier neuf en France. Le nombre de logements mis en vente a chuté de 11,7% au deuxième trimestre, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. On va en parler avec Henri Buzy-Cazot, président fondateur de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Pourquoi ce ralentissement assez brutal ?
Bon, deux grandes raisons. La plus importante, c'est l'assèchement de la production. Il faut voir que le stock des promoteurs n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. On estime que un stock normal, pour que l'activité fonctionne bien, doit être à hauteur d'à peu près une année de production. On est aujourd'hui en dessous de 6 mois de stock, plus près de 5 mois de stock. On n'a jamais vu ça. Alors, la raison, c'est que les promoteurs ne mettent pas de logements en chantier. Et là encore, derrière cette raison, deux origines. La première, bien sûr, elle est liée à l'inflation et à l'augmentation exponentielle du coût des matériaux. Un seul chiffre, structurellement, les matériaux, ça fait 50% du prix de revient d'un logement. Lorsque vous avez un dérapage de 10% de ces prix, on est bien au-delà aujourd'hui. Eh bien, tout simplement, il y a un impact qui pèse à hauteur de 5 ou 6% sur le prix pour le consommateur à la fin. Vous avez pu constater aussi dans les chiffres du ministère qu'on a vu une augmentation du prix des logements qui est de près de 6% au cours des derniers mois. Voilà, c'est la répercussion partielle du coût des matériaux. Donc les promoteurs savent qu'ils ne pourront pas répercuter totalement, sauf à effacer complètement leur marge bénéficiaire, c'est-à-dire la santé de leur entreprise en serait menacée. Ça, c'est la première raison. La deuxième origine de l'assèchement, c'est la question de la transition écologique. C'est le nom du ministère qui publie ses statistiques trimestrielles, vous l'avez rappelé à l'instant. Le zéro artificialisation nette, l'objectif de sobriété foncière, en clair, on ne doit plus artificialiser les sols comme on le faisait par le passé. Ce n'est pas au cours de cet été où on voit l'effet des dérèglements climatiques qu'on va remettre ça en question, mais simplement le mode d'emploi n'a pas été donné aux élus qui ne signent pas les permis de construire. On a encore un problème de malthusianisme des élus aujourd'hui. Les promoteurs eux-mêmes sont désemparés. Comment fait-on ? Où trouve-t-on les terrains ? Il y a des solutions. On va retraiter les friches industrielles, mais on ne le sait pas encore le faire suffisamment. Il faut des aides publiques plus abondantes. On va dire, voilà, on peut pas échapper à ça. On va utiliser des terrains qui sont imperméabilisés, comme on dit, mais sur lesquels on ne le construit pas. Ça peut être des parkings inutilisés. Bref, il y a des voies, mais aujourd'hui, le mode d'emploi n'a pas été donné aux élus. Et puis la deuxième grande raison de cette baisse très importante. Je souligne d'ailleurs qu'elle est moins importante que celle du trimestre précédent. On finit par oublier, c'est une descente aux enfers. On était à moins 20% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2021. On est là, vous l'avez dit, à hauteur de 12% de moins. Très mauvaise nouvelle. C'est aussi la désolvabilisation des candidats à l'acquisition immobilière. L'accès au crédit est extrêmement compliqué aujourd'hui. Avec plusieurs raisons à ça, la hausse des taux, des ménages ne passent plus avec des taux qui aujourd'hui allez flirtent avec les 2%. Et puis, bien sûr, aussi le fameux taux d'usure, on en a beaucoup parlé, et en particulier chez vous, avec des spécialistes du crédit, ce taux d'usure coupe du crédit un certain nombre de ménages. Les banques devraient prêter à 2,5, 2,6, 2,7, ne peuvent pas le faire, malgré un redressement il y a quelques semaines du taux d'usure, au 1er juillet, ça ne suffit pas. Et donc, on dit à certains ménages, bah, écoutez, on est désolé, pour vous, il faudrait que le taux soit de 2,7 ou de 2,8, on ne peut pas vous l'appliquer, ce serait illégal, donc on ne vous prêtera pas d'argent. Voilà. La demande elle-même n'est pas au rendez-vous.
On va prendre tous ces éléments dans l'ordre. D'abord, sur les contraintes environnementales, à vous entendre, c'est une menace pour le secteur. Est-ce qu'il faudrait les assouplir, de votre point de vue ?
Non, je crois que il faut prendre la mesure de leur utilité à ces contraintes. Ce n'est pas une lubie du précédent exécutif. La loi climat résilience du 22 août 2021, il y a presque un an, jour pour jour, est une loi fondamentale. Il y a un calendrier. Ça venait compléter d'autres lois. Je ne pense pas que le moment soit venu de redonner de l'oxygène en rallongeant les délais. En revanche, il est certain qu'il faut donner des explications et ce quinquennat ou cette législature doit être celle du comment. Comment va-t-on arriver à cette frugalité foncière ? J'ai indiqué quelques pistes. Il peut y avoir aussi, c'est pas un assouplissement, c'est une définition. Quand on dit pas d'artificialisation nette. Le net compte énormément. Est-ce que si un promoteur fait un programme, ça peut être tout un quartier d'ailleurs, avec des espaces végétalisés, est-ce que ça va être pris en compte ? Est-ce qu'il va y avoir une soustraction en quelque sorte par rapport aux zones qui vont être à proprement parler artificialisées ? Voilà, il faut, je crois, donner des repères. Et je ne parle pas d'assouplissement. De la même manière, la norme RE 2020, qui depuis le 1er janvier qualifie les logements neufs. Bon, ces logements neufs aujourd'hui sont vertueux hein, au plan environnemental. Elle a été négociée âprement pendant, pour ainsi dire, 18 mois. Aujourd'hui, elle est là. C'est un carcan. Les promoteurs l'ont accepté. Ils vous disent que c'est difficile, qu'il y a un apprentissage, il y a une courbe d'apprentissage, mais il faut le faire. Je crois vraiment que on est dans une absence jusqu'à présent de didactique, de dialogue. Faut le dire, un dialogue insuffisamment nourri entre les producteurs de logements. On a parlé des promoteurs, il y a les constructeurs de maisons individuelles aussi. Hein. Le chiffre de baisse que vous donniez, il cache d'ailleurs un chiffre encore plus mauvais pour les maisons individuelles.
On est à moins 13,9%.
Voilà, c'est ça, bon, exactement. On flirte avec les 14%. Donc la maison individuelle pâtit encore plus parce que les ménages, lorsqu'ils ont envie d'une maison individuelle, ben, ils sont tentés de dire « Allez, je la veux assez loin de la ville, donc on va artificialiser un terrain », on leur dit non. Alors, où allez-vous construire cette maison individuelle ? À quoi va-t-elle ressembler ? À quoi va-t-elle ressembler ? On peut faire des maisons qui sont beaucoup moins consommatrices de terrain, c'est déjà le cas. Des maisons mitoyennes, des maisons à étage, on va densifier. Donc, il ne faut pas dire aux Français, ça avait été dit par Emmanuel Wargon de manière maladroite, oubliez la maison individuelle. Non, oubliez la maison individuelle telle qu'elle s'est construite il y a 30 ou 40 ans. Mais il faut, voilà ce que j'appelle un mode d'emploi de manière très, très concrète. Il y a aujourd'hui des élus, des acteurs professionnels et des ménages qui sont désemparés par rapport à cet objectif, qui
vous
ne
parliez,
pas l'utilité de l'objectif.
Vous parliez également des difficultés d'accès au crédit. On sait qu'au mois de juillet, oui, pratiquement 40% des demandes de prêts ont été refusées avec cette problématique du taux d'usure, c'est-à-dire qu'avec la remontée des taux d'intérêt, le taux d'usure, nous disent les professionnels, est trop bas et beaucoup de dossiers sont refusés à cause de ça. Et beaucoup de professionnels appellent à revoir soit le mode de calcul, soit à réviser le taux d'usure beaucoup plus souvent, puisqu'actuellement, c'est chaque trimestre. Pour autant, le taux d'usure, il a été mis en place pour protéger le consommateur. Est-ce qu'il ne faut pas quand même s'en souvenir et demander peut-être aux acteurs financiers de faire un effort ?
Je crois deux choses sur le taux d'usure. Il me semble que, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, on devrait en suspendre purement et simplement, parce que ça va être du bricolage de le recalculer, de modifier. Ça va être encore une négociation de marchands de tapis. Je dis respectueusement des acteurs, mais ça ressemblera à ça. Je pense que pendant peut-être un an, deux ans, sinon trois ans, il faut en suspendre l'usage. Rappelons que
les associations de consommateurs vont hurler. Hein.
Attendez, il y a une deuxième partie à mon propos, parce que ce que vous disiez sur la protection du consommateur, évidemment, est déterminant. Rappelons que la France est le seul pays ayant un taux d'usure. On a quelques autres pays qui ont des taux d'usure très élevés, donc protecteurs, mais à hauteur de 10%, 8%, et d'autres pays qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'on renvoie à la responsabilité des prêteurs. Vous avez raison, quand on a fabriqué ce taux d'usure, quand il s'est imposé, il y avait eu des dérapages. Des prêteurs, même en France, n'avaient pas été respectueux de certains consommateurs. Il a une origine historique. Elle est très ancienne, hein. Il faut remonter plusieurs décennies avant nous. On a aujourd'hui un système prudentiel de contrôle des banques qui s'est considérablement accentué. Parlez-en à n'importe quel courtier ou banquier, il vous le dira. Et les banques aujourd'hui, si vous me passez l'expression, se tiennent à carreau. Alors, il pourrait y avoir des dérapages, ils seraient constatés, ils seraient sanctionnés, et ce serait à l'unité. Moi, je pense qu'il faut renvoyer à la responsabilité des banques. Elles ne vont pas prêter à des taux insupportables de 4 ou 5% si le taux correct, je l'évoquais tout à l'heure, ça, c'est de 7 ou de 8, mais que ça permet un projet. Je pense qu'il faut renvoyer à la responsabilité des acteurs et provisoirement, par la loi bien sûr, suspendre l'utilisation du taux d'usure. La CAS, vous l'avez dit, elle est de près d'un dossier sur deux. Et d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique, dans les chiffres que vous avez rappelés au début, ajoute que le taux de casse, c'est pas dit comme ça, mais d'annulation des réservations de logements neufs, a également augmenté.
C'est-à-dire 13,2%. Qu'on a des ménages qui s'engagent, 13,2% voilà, deuxième trimestre.
Et puis ensuite, la banque leur refuse le prêt, pour être tout à fait clair. Et donc, comme cette réservation est sous condition d'obtention de prêt, il y a de la casse. Voilà, donc il faut remédier à ça. Il est certain que l'autre problème derrière l'assèchement de l'offre, c'est une demande qui est fragilisée aujourd'hui et qui, à la rentrée, ne sera pas davantage au rendez-vous s'il n'y a pas cet assouplissement. Voilà, c'est le dossier du moment, c'est clair.
Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que vous êtes inquiet, en quelques mots, pour la fin de l'année sur le marché immobilier ?
Je ne le suis pas que pour la fin de l'année. On a des cycles longs dans l'immobilier. Derrière les chiffres que vous donnez, il n'y a pas de remise en chantier, il n'y a pas d'autorisation de construire qui se relance. Et donc, on hypothèque les 3-4 ans qui sont devant nous. Il faut donc réagir tout de suite parce qu'on va vers un problème très simple. On ne pourra plus donner aux ménages ce dont ils ont besoin pour répondre à leur projet logement lié à la mobilité, lié à l'évolution des familles, à la mobilité territoriale. On va vers une crise sociale. C'est pas une crise immobilière, c'est pas une crise économique, c'est pas une question d'acteurs. Une crise sociale, la satisfaction des ménages en logement ne sera pas assurée. Elle ne peut pas l'être que par le logement existant rénové. Il faut être très clair là-dessus. Il y a aujourd'hui un fantasme qui consiste à dire on va faire avec l'existant. Ce sera une petite partie de la solution. Il faut produire au moins 400 000 logements par an. On est en train de plonger vers les 320, 330 000. Chiffre que j'ai connu quand je suis entré dans ce secteur en 1990. Mais nous avions près de 13 millions de ménages en moins dans ce pays. Et nous avons la même production. On voit bien que ce problème est décisif.
Merci beaucoup Henri Buzy-Cazot, président Merci. Fondateur de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Le monde qui bouge.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Avec Benaouda Abdedaïm. Benaouda, le Caire est dans l'inconnu financière, en pleine négociation avec le FMI. Et alors que la crise ne cesse de s'amplifier en Égypte, le gouverneur de la Banque Centrale Égyptienne a démissionné hier. Qu'est-ce qu'il a amené à prendre cette décision?
Oui, Tarek Amer part sans que son remplaçant soit désigné dans l'immédiat. Le gouverneur en poste depuis 2015, une personnalité tout à fait reconnue parmi ses homologues des économies émergentes, était visée pour ses choix dans la gestion des très lourds défis financiers de son pays, systématiquement relié dans la communication des autorités égyptiennes à la guerre russo-ukrainienne. Le principal titre de la presse gouvernementale égyptienne rapporte des divisions au sein de la Banque centrale, avec d'un côté le gouverneur que certains, je cite, disent favorable à une nouvelle dévaluation de la monnaie voulue par le Fonds monétaire international afin d'être éligible à un nouveau prêt, tandis que le vice-gouverneur, lui, rejetterait les conditions strictes du FMI. Comme les experts de l'institution internationale, différents économistes de marché aux États-Unis et en Europe, comme ceux de Goldman Sachs ou de Deutsche Bank, soutiennent que la livre égyptienne reste trop élevée, même après la dévaluation en mars de 16%. Sans attendre qu'un remplaçant soit désigné, le nom de la ministre de la Planification est avancé. La Banque centrale devrait, quoi qu'il en soit, cette semaine, peut-être aujourd'hui, relever encore une fois ses taux d'intérêt pour la troisième fois depuis l'invasion de l'Ukraine. Il s'agit d'abord de contenir l'inflation qui, selon les statistiques officielles, tend vers les 15%. Celle sur les denrées alimentaires atteint maintenant 66%. Sachant que l'Égypte est le premier importateur de blé au monde, l'essentiel provenant de Russie et d'Ukraine. Et c'est bien la capacité de financer à la fois les achats à l'étranger et à rembourser la dette extérieure qui est maintenant en jeu. Les réserves de change ont diminué à 33 milliards de dollars seulement.
Comment est-ce que la situation peut maintenant évoluer ?
Il y a encore une fois la conviction que, quoi qu'il advienne, des solutions de financement extérieur seront trouvées pour le plus peuplé des pays arabes. L'agence de notation financière Moody's avance sinon un risque de graves troubles sociaux. Alors l'Arabie Saoudite a effectué un dépôt à la Banque Centrale Égyptienne il y a 3 mois, aux côtés des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Les engagements portent sur 22 milliards de dollars en tout, mais cela ne devrait toujours pas suffire. C'est l'appui très attendu du Fonds monétaire international qui demeure le plus déterminant auprès des investisseurs institutionnels extérieurs. Les négociations avec le FMI ne cessent de s'étirer et c'est interprété comme une forme de défiance. Bien avant la guerre russo- et ukrainienne, les experts du Fonds monétaire international, mais aussi ceux de la Banque mondiale, ont rédigé des recommandations de manière plus ou moins diplomatique selon les documents, afin que l'État égyptien réforme de fond en comble son secteur public inefficace et desserre l'emprise des militaires sur l'économie. Dans son rapport de surveillance de juillet 2021, par exemple, le FMI écrit que nombre d'entreprises publiques, dont celles contrôlées par la défense, enregistrent de faibles performances et bénéficient pour certaines de conditions de concurrence indues aux dépens de l'initiative privée. Fin avril, le président Abdel Fattah al-Sissi, qui a été le chef d'état-major de l'armée, a évoqué un programme de privatisation censé rapporter 10 milliards de dollars. Il a affirmé que les sociétés détenues par les forces armées seront mises en vente avant la fin de l'année, mais il n'y a pas eu de précision depuis dans quelle mesure cela bouleverserait l'ensemble des équilibres de pouvoir, y compris en son sommet. C'est là tout le paramètre central de cette équation.
Merci beaucoup Benaouda Abdedaïm. À suivre dans une poignée de secondes, le journal avec Claire Sergent. Un nouveau point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. On va parler des laboratoires Sanofi qui continuent d'accumuler les déboires.
Et après l'échec de son vaccin anti-Covid, le laboratoire a renoncé à développer son traitement contre le cancer du sein. Les essais n'étaient pas concluants. Thomas Schnell.
Terminés les développements autour de l'amcenestran, la molécule expérimentale de Sanofi n'a pas montré les effets escomptés comme traitement contre le cancer du sein avancé ou non opérable. L'amcenestran était arrivé à un point de développement où les analystes financiers avaient commencé à espérer que la molécule soutiendrait la croissance des ventes de Sanofi à partir de 2025, dégageant 350 millions de revenus à partir de 2027. Avec ce nouvel échec, la Big Pharma française continue d'alimenter une préoccupation majeure des analystes. Le groupe est-il trop dépendant d'un de ses médicaments phares, le Dupixent, utilisé contre l'asthme et certaines maladies de peau, qui représente 1/5 de ses revenus? D'autant que d'autres inquiétudes planent sur le front judiciaire cette fois. Les procès contre le Zantac, ex-médicament star contre les brûlures d'estomac, soupçonné d'avoir provoqué des cancers, ils vont débuter à partir de la semaine prochaine aux États-Unis et maintenir le groupe sous pression.
Et le titre lâché 5,7% hier à la clôture.
Toujours dans l'actualité entreprise, la famille Bouygues monte encore au capital de l'entreprise.
Oui, les frères Bouygues et leurs proches dépassent désormais le seuil des 25% et ils détiennent 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote. Mais ils précisent ne pas vouloir franchir le seuil des 30%, ce qui les obligerait à lancer une OPA sur le géant français du BTP, des télécoms et des médias.
Encore des turbulences dans le secteur des crypto-monnaies. Les pertes s'accumulent pour les mineurs de Bitcoin qui en sont contraints à prendre des décisions radicales.
Et oui, ils vont devoir céder leurs actifs face à l'effondrement des cours des cryptos. Les principaux groupes spécialisés dans le minage ont enregistré des pertes abyssales au deuxième trimestre. Simon Tenenbaum.
Les trois principales entreprises de minage de Bitcoin cotées aux États-Unis ont enregistré au cumulé plus d'$1 milliard de pertes au dernier trimestre. Avec un cours du Bitcoin toujours au plancher, les mineurs, qui font aussi face à la hausse des prix de l'énergie, se retrouvent à court de liquidités et sous pression de leurs créanciers. Pour survivre, ils n'ont pas d'autre choix que de céder leurs actifs, d'abord en piochant dans leurs réserves. Les principaux mineurs ont vendu près de 15 000 Bitcoins en juin, alors qu'ils n'en ont produit que 3 900. Plus de 6000 bitcoins ont encore été cédés en juillet. Et comme cela ne suffit pas, ce sont maintenant les coûteux ordinateurs, les machines de minage qui sont revendues. Stronghold Digital Mining a par exemple réduit sa dette de $67 millions en cédant plus de 26 000 machines à ses créanciers. Des créanciers spécialisés dans les crypto-monnaies qui se retrouvent eux aussi en danger. Jusqu'à $4 milliards de prêts adossés sur des machines de minage sont aujourd'hui à risque à cause de la chute du marché.
On va parler du nucléaire avec la Chine qui est bien partie pour dépasser les États-Unis.
Oui, le pays connaît une accélération exponentielle de sa production. 20 réacteurs sont en cours de construction. La Chine vient de remettre en service un réacteur EPR de sa centrale de Taishan dans le sud du pays. Ce réacteur était à l'arrêt depuis un an à cause d'un problème technique. Virginie Cook.
L'été dernier, les autorités chinoises découvrent un problème d'étanchéité des barres de combustible de l'EPR de Taishan. Le réacteur est alors mis à l'arrêt. Après un an d'inspection et de maintenance, il est de nouveau opérationnel. Le réacteur vient d'être reconnecté en début de semaine au réseau électrique chinois. Ce réacteur est la première installation EPR à avoir été mise en service dans le monde en 2018. Une technologie fournie par EDF, qui est d'ailleurs actionnaire à 30% de la centrale de Taishan, qui était censée lui servir de vitrine. Le groupe français va devoir éviter ces mêmes problèmes d'étanchéité dans son EPR de Flamanville, où EDF est en train de remplacer 64 des 241 assemblages de combustible. Un énième problème à régler pour l'EPR de Flamanville qui cumule plus de 10 ans de retard. La mise en service de l'EPR finlandais prévue en juillet, elle, a été repoussée en décembre prochain, après 12 ans de retard sur le calendrier initial.
Et face à la sécheresse et au manque d'eau dans le pays, la Chine est contrainte de restreindre l'électricité dans ses entreprises, notamment dans la province du Sichuan, où 80% de l'électricité vient de l'hydraulique. Pour les industries les plus gourmandes, elles ont dû fermer pendant 5 jours. Dans l'actualité internationale également, cette réunion en Ukraine aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est arrivé hier soir dans le pays. Les trois hommes doivent se retrouver à Lviv, dans l'Ouest. Au menu des discussions, le récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, mais aussi le besoin de trouver une solution politique au conflit.
Le sujet qui divise, le gouvernement veut légaliser les dark stores et les dark kitchens.
Vous savez, ce sont ces entrepôts qui permettent de livrer des courses et des repas en quelques minutes. Ils ont fleuri un peu partout dans les grandes villes avec la pandémie, mais les maires ne voient pas d'un bon œil ces concepts hybrides qui menacent les commerces de leur ville. Laura Cambeau.
Mettre fin au flou juridique qui entoure les dark stores et les dark kitchens depuis des années, c'est l'objectif du projet de décret gouvernemental. Il propose que ces entrepôts soient considérés comme des commerces dès lors qu'un seul retrait est effectué par jour. Selon Lionel Delbos, conseiller en charge de l'économie des territoires pour France Urbaine, ces entreprises pourront facilement contourner la législation.
Un dark store peut être considéré comme un commerce s'il livre 799 consommateurs dans la journée, mais si un d'entre eux vient chercher ses courses dans le dark store, ce n'est plus un entrepôt, c'est un commerce.
Opposition frontale des autorités locales qui veulent réguler leur implantation. À Paris, on compte une centaine de dark stores et de dark kitchens et selon la mairie, ils représentent une concurrence déloyale contre les petits commerces. Olivia Polski est adjointe en charge des commerces dans la capitale.
Aujourd'hui, en fait, notre plan local d'urbanisme, il protège le commerce de proximité et il ne permet pas à des entrepôts de prendre la place de commerce.
Une cinquantaine de procès-verbaux dressés par la mairie de Paris sont en attente d'une instruction par le tribunal. De leur côté, Cajou, Gorillaz, Flink et leurs concurrents se défendent et affirment qu'ils font aussi travailler des artisans locaux.
Merci Claire. On se retrouve tout à l'heure à 9h, les marchés financiers. Avec Antoine Larry-Gaudry en direct du siège d'Euronext. Antoine, on va continuer de garder un œil sur le pétrole aujourd'hui qui reprend un petit peu de hauteur ce matin, le baril.
Oui, c'est vrai, on en a beaucoup parlé cette semaine. Ça a été un des faits marquants, avec quand même un recul de 12 ou 15% suivant les qualités de brut sur un mois, ce qui est loin d'être anodin. Et puis, on voit que la dynamique reste profondément baissière. Alors, c'est vrai qu'il y a un redressement assez net ce matin. Au-delà des 93 dollars pour le baril de Brent de Mer du Nord, on était quasiment à 94 tout à l'heure. Et on est sous les 88 pour le brut léger américain. Mais voilà, la question, c'est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que les marchés n'aiment pas l'instabilité, surtout en ce qui concerne des facteurs structurels comme ceux des prix de l'énergie. Alors, ce n'est pas forcément la tendance baissière du moment qui va arranger nos affaires de pression inflationniste. C'est qu'une phase de court terme. Ce sont aussi des ajustements dans un marché qui navigue un petit peu à vue par rapport à l'offre et la demande mondiale et les inquiétudes concernant la croissance et les dynamiques de politique monétaire. Tout ça va ensemble. Mais fondamentalement, on va avoir effectivement certains secteurs qui peuvent en profiter à court terme, comme le secteur du transport, etc. Évidemment, le secteur de l'énergie qui est réactif au premier degré. Mais voilà, l'instabilité sur les prix du pétrole, et même si c'est dans un sens qui peut éventuellement arranger le consensus économique, c'est pas forcément une bonne chose. Donc les marchés vont continuer à y être attentifs. Le marché, lui, à court terme, ce matin, devrait ouvrir sur une légère hausse, en tout cas se stabiliser après la consolidation d'hier, après des mauvais chiffres, mais aussi des considérations techniques qui rendaient légitime le fait qu'on puisse prendre quelques profits après 5 séances de hausse consécutives.
Merci beaucoup, Antoine. On se retrouve tout à l'heure à 9h pour l'ouverture. Une question à présent. Une entreprise est-elle obligée d'accepter la demande d'un salarié à temps partiel qui souhaite travailler davantage? Écoutez la réponse de Thomas Schnell.
Good morning business, BFM Business avec vous.
On a une question ce matin, donne nos auditeurs. Un employeur qui a un salarié actuellement à temps partiel et qui souhaite passer en temps plein, ce à quoi notre auditeur est opposé. Il considère le salarié qu'il est forcé de faire droit à sa demande puisque son contrat de travail ne mentionne pas qu'il est à temps partiel. Est-ce que notre employeur peut refuser? Alors, en principe, l'employeur n'est pas forcé d'accepter la demande d'un salarié de passer d'un temps partiel à un temps plein s'il en fait la demande. Il y a toutefois des obligations. Le salarié bénéficie d'une priorité de l'emploi. Donc, si un emploi disponible à temps plein dans sa catégorie professionnelle, eh bien, il faut lui proposer. Si on n'informe pas le salarié, ce sera considéré comme un préjudice à réparer. Dans ce cas, donc, le nombre d'heures n'est pas spécifié dans le contrat, ce qui pourrait lui donner raison. Le contrat à temps partiel doit bien évidemment mentionner la durée hebdomadaire. Son absence fait donc présumer que l'emploi est à temps complet. Mais cette présomption tomberait si jamais l'employeur arrive à prouver que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Autrement, le contrat à temps partiel pourrait être requalifié et l'employeur condamné à régulariser les paiements du salaire.
8h41, votre rendez-vous IMO, comme chaque matin. Investir à l'étranger pour devenir propriétaire d'un logement de vacances ou tout simplement dans un projet immobilier locatif, c'est une tendance qui se développe de plus en plus. Marie-Cœur de Roy.
Est-ce une bonne idée de se lancer dans un investissement locatif à l'étranger? L'appétit des Français semble en tout cas bien réel, selon une récente étude de l'entreprise Mastéos. 20% des personnes interrogées disent envisager d'acheter d'ici 5 ans un bien immobilier dans le reste de l'Europe. Et même si la moitié d'entre eux rêvent d'une résidence secondaire, près d'un quart veut faire un investissement, autrement dit acheter un bien pour le mettre à la location. Les destinations privilégiées des Français, l'Espagne en tête, suivie par le Portugal puis l'Italie. Et c'est vrai que dans ces pays, les grandes villes sont bien plus abordables qu'en France. Barcelone, par exemple, est à moins de 4000 euros du mètre carré. On est même à peine au-dessus des 3000 euros pour Rome. Résultat, les rendements y sont aussi particulièrement attractifs. Plus de 4,5% de rendement à Barcelone et même au-delà des 5% de rendement pour Rome. Mais attention, avant de vous lancer, il y a évidemment des particularités et des difficultés propres à chaque pays. Mais surtout, un vrai sujet sur l'apport personnel que vont vous réclamer les banques au moment où elles vous accordent votre crédit immobilier. Prenons l'exemple d'un achat immobilier à 300 000 euros. En France, on vous demandera en moyenne moins de 40 000 euros d'apport, soit environ 13% du prix du bien. Au Portugal, on monte à 84 000 euros, soit 28% du prix du bien. On grimpe encore en Espagne à 99 000 euros d'apport et même près de 110 000 euros en Italie, toujours pour un bien à 300 000 euros.
À suivre, après la pause Culture Geek, ce sera avec Anthony Morel et Frédéric Simotel. Et puis le débat du jour, on vous parlera des hausses des taux des banques centrales avec quelles conséquences sur l'économie. Ce sera Nicolas Dose et ses acolytes. À tout de suite.